Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, nous étions préparés pour ce que nous allons voir ce matin. C'est une promesse dans la malédiction. Nous voyons ce passage en Genèse chapitre 3, verset 15. Nous allons voir particulièrement le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Une promesse dans la malédiction. Le passage qui concerne notre prédication pour aujourd'hui a déjà été lu par nous ce matin. Malgré les circonstances étranges, tout le monde se prépare pour Noël. Cette saison de Noël va être spéciale compte tenu de conditions de distanciation sociale dans lesquelles nous sommes contraints à vivre. Ce ne sera pas le moment de faire la grande réunion, mais ce qui est sûr, que ce soit Noël ou pas, c'est la parole de Dieu, la parole incarnée Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu lui-même, qui nous unit, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Très souvent, nous lisons le récit de quatre évangiles du Nouveau Testament pour méditer sur le Messie promis. Il est vrai que les récits de l'Évangile nous disent tout sur la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Mais rarement, nous revenons aux premières pages de l'Ancien Testament, c'est-à-dire au livre de Genèse sur Jésus-Christ, le Messie promis. Nous savons tous que le livre de Genèse est le fondement qui tient fermement les 65 autres livres de la Bible. C'est le début de tous les commencements. Il suffit de retirer le livre de Genèse de la Bible et tous les autres livres s'effondrent. Il y a près de 200 allusions au livre de Genèse dans le Nouveau Testament. Plus de la moitié de ces 200 allusions du Nouveau Testament à la Genèse se trouvent dans les 11 premiers chapitres de ce livre. 63 des allusions sont aux trois premiers chapitres de la Genèse. Tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception de Philémon, de Jean et 3 Jean, contiennent des allusions à la Genèse. Pourquoi dois-je vous dire tout cela? C'est parce qu'aujourd'hui, les ennemis de Dieu attaquent le livre de Genèse plus que tout autre livre, le qualifiant de livre des fables, et surtout les 11 premiers chapitres. Soit toute la Genèse fait partie de l'Écriture, soit elle ne l'est pas. La Genèse est importante parce qu'elle est vitale pour connaître Dieu et son caractère. Vous ne pouvez pas vraiment connaître Dieu tant que vous n'avez pas bien compris la Genèse. C'est une revendication puissante, mais qui mérite d'être considérée. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas en savoir assez sur Dieu pour recevoir son don du salut si l'on ne connaît, par exemple, qu'une présentation évangélique du livre de Jean ou des Romains. Plusieurs millions ont été sauvés avec seulement quelques parties de l'Écriture. Si Genèse n'a pas d'importance, si Dieu ne voulait pas que nous le connaissions à travers le livre de Genèse, alors il l'aurait complètement exclu de la Bible. Et ce matin, nous allons voir le récit de Noël depuis le troisième chapitre de Genèse. C'est là où l'on parle pour la première fois de la venue du Sauveur Jésus-Christ, de son premier avènement. Donc je vous demande de prendre le chapitre 3, que si vous avez déjà, dans le premier livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, on va lire le verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À l'exception de Jean 3, 16, aucun autre verset de la Bible n'est plus crucial et définitif que Genèse 3, 15. Si Jean 3, 16 pouvait être considéré comme une condensation de tout l'Évangile, ce verset devant nous est le premier message de l'Évangile. C'est la première promesse faite après que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu dans le jardin d'Éden. Les théologiens l'appellent le proto-évangélium, ou le premier évangile, parce que ces paroles prononcées par Dieu contiennent la première promesse de rédemption dans la Bible. Tout le reste dans la Bible découle de ces paroles de Genèse 3,15. Comme le gland contient le chêne puissant, de la même sorte, ces mots contiennent tous les plans de salut. Le grand prédicateur anglais Charles Simeon a appelé ces versets le somme et le résumé de toute la Bible. Bien que vous ne le voyez peut-être pas à première vue, Christ est bien mentionné dans ces versets. Il est la semence ultime de la femme qui viendrait un jour écraser la tête du serpent. Dans le foulée, son talon serait meurtri sur la croix. En bref, ce verset prédit que Jésus remporterait la victoire sur Satan, mais serait lui-même blessé en même temps. Maintenant, nous allons voir la promesse. Quand nous pensons à la promesse de Noël, nous pensons normalement aux promesses faites à Marie ou bien à Joseph. C'était des promesses merveilleuses, mais ce n'est pas la première promesse. C'est ce que l'on trouve ici, dans le tout premier livre de la Bible, dans le Jardin d'Éden, qui est la première promesse. Et ce qui est étonnant, que cette première promesse de Noël a été faite au serpent. Ce n'est pas été faite à Adam ou à Ève. Cette première promesse de Noël a été faite au serpent. Regardez la fin de verset 14. L'Éternel dit au serpent. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. Le verset 14 en entier. La raison de la promesse, puisque tu as fait cela, nous connaissons toute l'histoire de la chute de l'homme et comment le serpent a séduit Ève. Une promesse d'une malédiction, une juste rétribution pour ce qu'il a fait. Qui est le serpent? Nous le trouvons à Apocalypse 12, 9. Je vais lire pour vous. Apocalypse 12, 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Si vous passez du premier livre de la Bible au dernier livre, vous trouverez clairement qui est ce serpent. Il est le diable. Satan, le grand dragon, oui, la première promesse de la Noël a été faite à Satan. Notez ici que, avant même de prononcer jugement sur l'homme ou la femme, Dieu promet une délivrance. Avant même que Dieu prononce un jugement sur l'homme et la femme, Dieu promet une délivrance. Et nous savons que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 24. Et en Josué 21, 45, nous lisons ainsi, « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Ça nous suffit de voir dans le passé, dans l'histoire, toutes les promesses que Dieu a promises s'accomplissent. Sans aucune exception. La parole de Dieu ne change pas. Comme Dieu-même ne change jamais. Je me demande comment nous, les enfants de Dieu, arrivons à douter de la parole de Dieu ou de Dieu lui-même. Cette promesse faite à Serpent ou Satan, le grand dragon, n'implique-t-il pas le Fils de Dieu et lui, Dieu lui-même? Quand Dieu l'a dit, ce qu'il va faire, ça implique sa personne, ça implique Dieu lui-même, ça implique le Fils de Dieu. Cette promesse indique que Dieu lui-même, il va prendre la forme humaine, il va descendre ici-bas sur cette terre pour donner sa vie. Ça implique la vie de le Fils de Dieu. Cette promesse concernant la destruction de Satan implique la vie même du Fils de Dieu. Et la promesse, elle dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oh, combien nous devrions prendre au sérieux la parole de Dieu, qui a Dieu lui-même comme garant. Dieu accomplit sa promesse en son temps. Il est éternel, il n'est pas gouverné par le temps comme nous sommes. Dieu accomplit sa promesse en son temps. Regardez en Galates, mais je vais lire pour vous, Galates 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Et en Jean 13, le premier verset, avant le fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jésus savait exactement quand est-ce qu'il devrait donner sa vie. Dieu le Père, il savait exactement quand le sacrifice du Fils de Dieu sera accompli, comme il l'a promis. Mais entre les deux, il y avait une longue attente, n'est-ce pas? Beaucoup, ils sont espérés en Dieu, ils sont entendus avec la foi pour voir ce jour, pour voir cette promesse accomplie. Deuxièmement, nous voyons dans ce verset, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. » Ici, la sentence passe du genre de vie de tentateur à sa relation future avec l'homme. L'homme s'était associé avec lui pour faire la guerre à Dieu. L'homme que Dieu a créé s'était associé avec Satan pour faire la guerre avec Dieu. Maintenant, Dieu ne les sépare pas seulement, il les oppose l'un à l'autre et allume entre eux une guerre à outrance. C'est bien ici qu'on est forcé de s'élever du serpent envisagé comme animal à celui que le Nouveau Testament appelle le dragon ancien, le diable. Pour le serpent, ce qui a été dit au verset 14 aurait pleinement suffi. La malédiction a été donnée au serpent. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de la vie. » Mais ça devrait arrêter ici, normalement, les malédictions. Mais Dieu le continue. Il dit que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. La lutte que l'homme peut avoir à soutenir dans certains cas avec un serpent, c'est un fait trop peu important dans l'histoire de l'humanité pour qu'il mérite une mention aussi expresse et développée. Et puis la lutte de l'homme avec le serpent n'a rien qui diffère essentiellement de celle qu'il soutient avec tous les animaux féroces. Il s'agit nécessairement ici de quelque chose de plus grave. Il est remarqué que c'est de Dieu qui provient cette hostilité. Il dit « Je mettrai », car c'est de lui que part chez l'homme toute réaction contre le mal. Si, encore en tant que pécheurs, si nous haïssons le mal, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas naturel en nous que nous pouvons haïr le mal. Je mettrai l'inimitié. Il serait préférable de s'arrêter un moment pour méditer cette phrase. Je mettrai l'inimitié. De cette inimitié entre l'homme et de Satan, c'est une déclaration de guerre. Adam et Ève, en désobéissant à Dieu et en mangeant le fruit défendu, sont devenus les amis de Satan. Ses collaborateurs contre Dieu. Ils sont devenus des ennemis de Dieu. Ce que nous voyons en Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. Ils sont devenus des ennemis de Dieu. Mais nous voyons ici la grâce de Dieu dans la vie de l'homme pécheur. Dieu, dans sa grande miséricorde, initie cette guerre, met cette inimitié entre Satan et l'homme. Je me demande ce matin où on est maintenant avec cette inimitié que Dieu l'a initiée. Où on est maintenant? Une grande partie de notre humanité ignore cette guerre. Ils sont spirituellement aveuglés à choisir entre le bien et le mal. Même ceux qui s'appellent chrétiens n'ont-ils pas oublié l'inimitié que Dieu a instituée et continuent à chercher l'amitié avec ce monde? Mais Dieu dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Mais parfois nous cherchons l'amitié avec le monde. Au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça doit être clair pour nous. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Avec Dieu, il n'y a jamais de mélange des choses. Jamais d'algame. Nous, comme enfants de Dieu, avons cette bataille, cette guerre à combattre. Regardez ce que Éphésiens, l'apôtre Paul il dit aux Éphésiens, chapitre 6, versets 12 et 13, je vais lire pour vous, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. » Ce n'est pas pour la fin des choses, mais pour la vie, jour après jour, pour la vie de chaque jour. Nous avons un combat, nous avons une bataille à faire avec l'ennemi. Car Dieu a mis l'inimitié entre nous et le serpent, le grand serpent. Il a dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre toi et la femme. La femme était la première alliée avec le serpent. C'est d'elle que sortira la postérité qui aura la tâche de lutter contre lui. S'il agissait de la chasse que les hommes font au serpent, pourquoi serait-elle attribuée plus spécialement à la femme? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Ces mots ne peuvent signifier uniquement entre les hommes descendants de la femme et les serpents envisagés comme descendants de celui qui joue un rôle dans cette histoire. Cette relation hostile n'est qu'un emblème de la guerre spirituelle qu'annonce cette prophétie. Le mot « inimitié » porte l'idée d'une lutte de vie ou de mort entre deux combattants. Mais nous nous prenons souvent en léger. C'est une question de la vie et la mort. C'est une guerre entre la vie et la mort. Par la postérité du serpent, on pourrait entendre les anges des ténèbres, agents de Satan. Mais il est plus simple d'appliquer ce terme à ceux d'entre les membres de l'humanité elle-même qui, dans la lutte contre le mal, refuseront de se mettre de côté de Dieu et persisteront à demeurer au service de l'esprit de révolte dont le serpent est l'emblème. Mais regardez ce que Jésus il a dit aux pharisiens et sadducéens en Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Si nous demandons pourquoi certaines personnes se conduisent d'une certaine manière, la parole de Jésus répond. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Vous vous souvenez de ce que Satan il a fait dans le jardin d'Éden? On ne devrait jamais oublier ce qu'il a dit à Ève. Il a menti. Il a même fait Dieu un menteur. Et ce que Jésus dit quand les pharisiens et les sadducéens disent que nous avons Abraham comme notre père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi Dieu le voit écraser cette tête de serpent. C'est pourquoi. Et pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu des pharisiens et des autres venir vers lui dans le bord du Jourdain, il a parlé ainsi. Il disait, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et les sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Vous voyez? Il est entre ta postérité et sa postérité. Il y a deux postérités qui suivent. Entre ta postérité et sa postérité. Il dit clairement, race des vipères. Et encore Jésus, il dit aux pharisiens, Matthieu 12, 34, race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, les races de vipères, ils paradent comme des enfants de Dieu parfois. Mais Dieu, là, il sait qu'il appartient, qu'ils sont nés de nouveau. Et Jean-Baptiste, il a pu voir, il a dit clairement, race de vipères. entre, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité. Mais bien souvent, nous ne sommes pas conscients, on ne sommes même pas conscients, les chrétiens, qu'il y a une guerre entre sa postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme. La traduction de verset Darby dit « La sémence, ta sémence et sa sémence. » Et seconde 21, « Entre ta descendance et sa descendance. » Quand Dieu fait cette promesse à Satan, Adam et Ève n'avaient pas encore d'enfants. Il faut comprendre. Ils n'avaient pas encore des enfants. Caïn et Abel n'étaient pas nés. C'était les seuls êtres humains sur la terre. Pensez un peu à Ève qui entendait cette promesse de Dieu. Elle a certainement compris que Dieu fera ce qu'il a promis par sa sémence. Il n'est pas étonnant qu'elle fût ravie quand Caïn est né. Elle a eu un homme de l'Éternel. C'est peut-être lui qui détruira le serpent, ce qu'elle aurait pu penser. Mais elle voit que Caïn n'a pas marché devant Dieu dans la justice. Quand Dieu a promis à Satan que la sémence de la femme lui écrasera la tête, il n'a pas dit quand cela arriverait et par qui cela arriverait. Avant de prononcer un jugement sur l'homme ou la femme, Dieu promet une délivrance dans l'avenir. La sémence est singulière et peut être comprise comme se référant à un individu ou au sens collectif à un groupe de descendants. La Bible nous invite à un voyage qui retrace la sémence de la femme. La question devrait être posée, pourquoi Dieu n'a pas indiqué dans sa parole qui portera la sémence qui écrasera la tête du serpent? Dieu simplement dit, il écrasera ta tête. Mais qui est cette personne? Qui est cette personne qui va accomplir cette promesse? La condamnation à mort et la destruction de Satan sont tombées ce jour-là dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait cette promesse. Mais bien sûr, Satan ne savait pas quand et de quelle manière Dieu accomplirait sa promesse. Et c'est maintenant que nous comprenons, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi Satan avait tout au long de l'histoire de l'humanité a été si agité. Et il était actif pour détruire la création de Dieu et ses œuvres dans ce monde. Satan, il est plus actif que des chrétiens comme nous. Il est très actif. Et dès le commencement, depuis le premier jour qu'il a entendu ça. Peut-être qu'elle met tout son espoir sur Abel. Parlant de Ève, elle a mis tout son espoir. Caïn, il est mort, il est parti. Et elle a mis tout son espoir sur Abel. C'est peut-être lui qui détruira le serpent. Mais Caïn assassine Abel, puis Dieu lui donne un autre fils, Seth. Elle a encore l'espoir que par sa sémence, Satan sera détruit. Ève meurt, Seth meurt aussi, où les hommes naissent et les hommes meurent un jour. Mais celui qui a promis est fidèle, il accomplira ce qu'il a promis. Il a assassiné Abel, la première semence, par l'intermédiaire de Caïn, son propre frère. Dieu a préservé la semence dans l'arche par Noé, quand le monde entier a été détruit par une inondation mondiale. Quand nous pensons que tout est fini, tout espoir, quand nous perdons tout espoir, Dieu l'a encore préservé, la sémence qui va détruire, écraser la tête de serpent. Ce mince fil cramoisi s'étend du jardin d'Éden à ceux qui croyaient en la parole de Dieu et qui lui étaient fidèles. Vous savez, à travers de la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut voir un fil cramoisi qui court à travers des pages de la Bible. Ce fil cramoisi inclut des hommes et des femmes ordinaires, les rois et des princes, les pécheurs, les femmes comme Tamar, Rahab, le prostitué, Ruth, le Moabite, et Bathsheba, qui a commis l'adultère avec David. Les généalogies que nous avons tendance à sauter en lisant notre Bible parlent des pages et de comment Dieu avait préservé la semence jusqu'à ce que Jésus naisse à Bethléem d'une vierge appelée Marie. Les massacres des milliers de bébés pendant la naissance de Moïse et de Jésus prouvent combien Satan voulait détruire la semence qui lui écraserait la tête. Satan, il savait, mais il ne savait pas qui est celui qui va écraser sa tête. Des milliers d'années plus tard, un homme est assis, se demandant ce qu'il va faire. La femme à qui il est fiancé est enceinte. Il a l'intention de divorcer en privé. Mais de nos jours, ça pourrait être un avortement. C'est facile à avorter un enfant. Il a l'intention de divorcer en privé, mais alors un ange lui apparaît et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui écrasera la tête de serpent. L'accomplissement de la promesse ne peut être nul autre que Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais ce qu'il faut noter ici, une vierge. Jésus, il n'était pas né d'un homme, il est né du Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Donc la semence n'appartient pas à l'homme. Quand le Seigneur, il a dit, la postérité de la femme. Postérité de la femme. Mais quand nous lisons la généalogie de, par exemple, en Matthieu, premier chapitre, hein, je pense qu'il y a 44 générations, nous voyons plusieurs femmes. Les noms de femmes sont mentionnés. Et surtout quand ça touche la généalogie de Jésus-Christ. Le nom des femmes sont mentionnés. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. À la fin, tous ces espoirs de détruire la semence de la femme ont été détruits par Jésus, par sa mort sur la croix. Satan, il a espéré jusqu'à le dernier moment pour détruire Jésus-Christ. C'est pourquoi il a proposé plusieurs fois qu'il ne devrait pas mourir. Il a tenté Jésus-Christ pour dire que non, tu ne devrais pas mourir, ce mort ignoble. Tu ne devrais pas mourir. Bien sûr, par le biais de ses propres disciples qu'il aimait. C'est pourquoi il a essayé de tuer Jésus-Christ plusieurs fois. Parce qu'il savait très bien que la mort sur la croix va écraser sa tête. Jésus-Christ est le vainqueur sur Satan. Maintenant, nous savons que Jésus est victorieux sur Satan au jour du jugement. Mais la Bible nous dit que Jésus est déjà victorieux sur Satan. La tête de serpent est déjà écrasée. Ce que nous voyons, c'est seulement le cœur qui bouge, qui nous fait peur. Mais en tant que des saints en Jésus-Christ, en tant que les enfants de Dieu, nous savons que l'ennemi est vaincu. Cela signifie que le péché est vaincu. Cela signifie que le péché est vaincu. Le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8, « Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus-Christ a déjà détruit le péché, il a détruit le diable. Et Jean, avec beaucoup d'amour, il dit, « Celui qui pêche est du diable. » Les œuvres de Satan, la tromperie qu'il propage et le péché qui résulte de cette tromperie seront détruits. C'est pourquoi Jésus est venu à cette fin même pour accomplir la promesse de Dieu qu'il a faite à Satan. Ses œuvres sont détruites, le péché sera vaincu. Cela signifie aussi que la mort est vaincue. Comment ? Par la mort de Jésus sur la croix. Il a détruit celui qui a le pouvoir de la mort. Quand Jésus est mort sur la croix, il a conquis Satan et il a détruit celui qui, par sa tromperie, a porté la mort dans la race humaine. Regardez en Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus-Christ, il a pris la chair, il a pris la forme humaine, forme de serviteur. Il est venu pour détruire la puissance de la mort, pour détruire, pour écraser la tête de Satan. Je sais que Adam et Ève partagent la responsabilité, mais l'écrivain hébreu nous rappelle que c'est la tromperie de Satan qui les a mis à mort. Je suis né condamné à mourir. Mais par la mort de Christ et ma foi en lui, j'étais libéré de cette phrase du pouvoir de la mort et m'a donné la vie éternelle. Et nous voyons pourquoi Jésus-Christ il est venu sur cette terre. Et pourquoi c'est à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de la péché de nos parents, à cause de nos péchés. Et celui qui a promis est fidèle. Et la promesse était accomplie sur la croix. Oui, Jésus est né pour mourir. Tel est son amour pour les pécheurs, pour nous. Et celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien, la postérité de la femme, la semence de la femme, va écraser la tête du serpent. Mais il y a une autre chose. Et la promesse était, et tu lui blesseras le talon. Quand il a écrasé la tête du serpent, lui, il était touché aussi. Mais pas dans la même façon, ce n'est pas quelque chose qui peut conduire à la destruction de Sauveur. Mais l'ennemi, il était détruit, mais il était touché, il a saigné sur la croix, il a donné sa vie pour ressusciter le troisième jour. Il vit à jamais. Et ce que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, vous connaissez par cœur, mais je vais lire quelques versets. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc, il était blessé. Et quand Dieu il a promis à Satan ce que se va passer, il savait exactement ce que ça implique. Mais pourtant, il a promis. Il a promis. Combien notre Dieu, il est fidèle. Et toutes ces paroles sont des promesses. C'est seulement dans le plan humain, on peut dire que je te promets. Mais tout ce que Dieu dit s'accomplit. Parce que ça implique sa personne. On ne peut pas détacher Dieu de sa parole. Et l'apôtre Paul, dans Romains 16, 20, il dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le jour vient où Satan sera entièrement détruit. Et nous n'avons rien à craindre. Nous avons un sauveur qui était promis depuis le premier jour. Même avant que nous pouvons pécher. Le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, il a tout pourvu pour nous sauver. Quel bel message de Noël. Cette promesse de Dieu s'accomplit. Une promesse que Dieu l'a fait, même dans les pires circonstances, dans les malédictions. Une promesse dans la malédiction. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voyons combien tu es un Dieu magnifique, combien tu es grand, combien tu es puissant. Seigneur, combien tu nous as aimés pour donner ta vie pour nous. Seigneur, tu es l'agneau qui était immolé avant même la fondation de ce monde. Seigneur, nous te louons, car Seigneur, tu as tout pourvu pour nous. Et tu dis, Seigneur, et s'accomplit. Seigneur, aide-nous à croire à tes promesses. Seigneur, aide-nous à prendre ta parole au sérieux. Et Seigneur, vivre digne de cet évangile que nous avons reçu. Seigneur, que ta parole fasse son œuvre dans notre vie. Que Seigneur, cette Noël ne devienne pas une célébration comme les gens du monde, ils célèbrent, mais pour nous, des jours de grande importance quand nous pensons à l'avènement de le premier avènement de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Que Seigneur, cette joie et de paix qui vient de toi remplit nos cœurs, le cœur de chacun de tes enfants qui t'appartient. Seigneur, nous savons que rien ne peut nous ravir de ta main. Seigneur, dans cette confiance que nous voulons rester à toi pour toujours. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Et pour ta seule gloire. Amen.